Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Prisca Thévenot, conseil régional d'Île-de-France, porte-parole de La République En Marche. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Prisca Thévenot, première question. Valérie Pécresse a tenu un meeting hier au Zénith pour relancer sa campagne. Qu'avez-vous pensé de son discours ?
Alors sur son discours, sur la forme, je ne me permettrai pas d'avoir de commentaires parce que j'ai pu entendre quelques prises de parole qui jugent la forme de son discours. J'aimerais rappeler que c'est pas super évident de parler devant une salle de plus de 8000, 2000, 4000, etc. personnes. Donc sur ça, charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de juger la forme d'un discours de quelqu'un, il faut peut-être essayer de se mettre aussi dans l'exercice. En revanche, sur le fond, là, j'aurais je vais être très claire, une seule grosse remarque. C'est qu'on est en train de banaliser et d'accepter la banalisation d'une théorie complotiste raciste. Et je fais référence à la parole qu'elle a eue sur le grand remplacement. Oui, elle a cité Éric Zemmour pour faire un appel du pied, je pense, à ses électeurs. Mais en faisant cela, elle se réapproprie ce terme qui est juste une théorie complotiste raciste. Désolée de le dire deux fois, mais je trouve ça quand même hallucinant qu'on soit en 2022 en train de laisser planer dans l'atmosphère ce genre de théorie qui n'a pas lieu d'être. Plutôt que de la combattre ensemble, eh ben elle en fait un sujet purement électoraliste. Et ça, je trouve ça dangereux pour une droite républicaine qu'elle dit elle-même vouloir incarner.
Vous dites comme Anne Hidalgo qu'elle n'est plus dans la filiation de Jacques Chirac qui refusait de courir derrière l'extrême droite.
Alors je ne sais pas si je dis comme Anne Hidalgo parce que j'ai pas entendu les propos d'Anne Hidalgo, donc je sais pas ce qu'elle a dit clairement dessus. Ce que je dis, c'est que Valérie Pécresse avait quitté les Républicains parce qu'elle y voyait en son sein une dérive droitière et qu'aujourd'hui elle y est revenue pour incarner elle-même cette dérive droitière. C'est aussi simple que ça ce que je dis. Ensuite, ce que je pense, c'est que j'ai dit ça, je pense que maintenant il faut commencer à regarder le reste, et le reste c'est le fond des propositions. Et là, à part cette grande phrase qu'elle a dite, qui est une grande phrase dans la blessure qu'elle peut provoquer sur la République, j'ai pas retenu grand-chose.
Alors, vous êtes militante de La République En Marche depuis 5 ans. Vous êtes porte-parole de votre parti. Est-ce que vous êtes totalement satisfaite du bilan d'Emmanuel Macron, ou bien il y a des aspects de sa politique qui ont pu vous décevoir ?
Alors, pour être très claire, est-ce que je suis satisfaite qu'on ait créé plus d'un million d'emplois depuis le début du quinquennat, qu'on ait, grâce à l'action menée par l'ensemble du gouvernement, un chômage au plus bas, qu'on ait pu travailler sur le chômage, plus particulièrement des jeunes, qu'on ait pu mettre en place des sujets comme la PMA, comme l'interdiction des thérapies de conversion, qu'on ait pu effectivement permettre aux jeunes femmes de prendre en charge leurs moyens de contraception jusqu'à 25 ans. Est-ce que je suis fière de tout cela ? Et je pourrais en citer plein d'autres. Oui, j'en suis fière. Maintenant, est-ce qu'il faut s'arrêter là et se dire que tout a été fait et que plus rien n'est à faire ? Absolument pas. Nous devons continuer à travailler, notamment sur les sujets de sécurité, les sujets de sécurité du quotidien. Parce que oui, nous avons un très bon bilan sur la lutte contre le terrorisme. Nous avons un très bon bilan sur les moyens qu'on a redonnés à nos forces de l'ordre, aussi bien en termes d'effectifs, mais en termes de moyens. Nous avons un très bon bilan sur la justice, mais on doit continuer à travailler sur la sécurité du quotidien. Cette insécurité qui mine les Françaises et les Français sur, par exemple, des actes complètement gratuits qui se passe de plus en plus, parce que oui, nous avons une violence qui est de plus en plus présente sur notre territoire. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on doit continuer à travailler. La sécurité, je pourrais parler de poursuivre effectivement le chemin qui a été tracé par le président de la République, qui est la réindustrialisation de notre pays avec des relocalisations qui sont en cours. Nous devons continuer à être une terre d'investissement, parce que terre d'investissement veut dire aussi une terre d'emploi, et une terre qui fondamentalement se tourne vers l'avenir pour les générations que nous devons embarquer avec nous.
Prisca Thévenot, vous avez grandi à Stein et Saint-Denis, oui. Vous connaissez les quartiers populaires. Est-ce que lors de ce deuxième quinquennat, Emmanuel Macron devra faire pour ce département ce qu'il a commencé à faire pour Marseille? La Seine-Saint-Denis pourrait-elle bénéficier d'un plan d'aide massif pour lutter contre la fracture sociale?
Alors, ce qui a été, je ne sais pas si on peut comparer les deux territoires, parce que je ne connais pas Marseille personnellement, donc je ne vais pas m'inventer spécialiste de Marseille tout de suite. Je sais que ce qui a été mis en place pour Marseille, c'est aussi une volonté qui a été affichée et demandée par les élus locaux, les conseillers départementales, régionales, mais également le maire de Marseille lui-même, qui a demandé, qui a tendu cette main au président de la République, main que le président de la République a bien évidemment accepté de prendre et y a répondu. Ce que je dis pour les quartiers, et ça c'est en général, hein, pas forcément que le 93, il y a déjà un plan qui a été mis en place, qui est au travers du comité interministériel des villes qui avait été réuni sous la voix d'Édouard Philippe à l'époque Premier ministre, et on le voit très clairement qu'il y a des mesures spécifiques pour les quartiers, notamment pour faire en sorte que les services publics puissent pleinement y retrouver leur chemin. Il y a par exemple des primes de fidélisation qui ont été mises en place, primes de fidélisation pour, par exemple, les forces de l'ordre, en leur disant, ben, vous allez travailler dans le 93, vous y installez, même c'est la même chose pour les enseignants, eh bien, vous avez une prime de fidélisation, si je me trompe pas, c'est au bout de 3 ans, c'est 10 000 euros, etc. Enfin, je n'ai plus les ordres de grandeur, mais c'était ça. Et je vous dis ça pas seulement moi en tant que représentante politique, je vous dis ça parce que j'en ai parlé pas plus tard que la semaine dernière avec des représentants syndicaux de nos forces de l'ordre. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a les cités et les internats d'excellence. Il y a les cités éducatives qui ont été mises en place. Il y a aussi tout le travail qui est fait sur la culture avec les ateliers Médicis qui permet d'avoir en résidence sur le département, sur le territoire, des artistes venus de partout en France pour justement permettre à la culture de s'infiltrer dans tous les quartiers et auprès de toutes les familles. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place. Encore une fois, je vais vous le redire, il faut continuer sur cette base-là. Chaque problématique doit avoir, je pense, un peu sa réponse. Il ne s'agit pas de caler des modèles et de calquer des modèles qui ont été mis ici pour les mettre là. Il faut pouvoir s'adapter à la réalité du terrain et surtout, dernier mot, de le faire en partenariat étroit avec les élus locaux qui seront le mieux à même de définir leurs problématiques et leurs besoins.
Prisca Thévenot, j'aimerais qu'on parle du logement première dépense dans le budget des ménages. Valérie Pécresse propose d'en finir avec les normes qui ralentissent la construction. Jean-Luc Mélenchon, lui, promet 200 000 logements sociaux s'il est élu président. Vous souhaitez qu'Emmanuel Macron rattrape le retard qui a été pris ces 5 dernières années dans la construction de logements sociaux?
Et oui, mais en fait, là, le président de la République, avec sous l'égide, effectivement, avec la ministre en charge qui est Emmanuelle Wargon, travaille d'arrache-pied sur ces sujets-là. Et moi, je suis désolée de le dire, mais la phrase, par exemple, de Valérie Pécresse de dire « il faut investir massivement pour aider à la construction de logements sociaux », mais je suis désolée, Valérie Pécresse, elle oublie qu'elle est présidente de région, elle oublie que nous, la majorité présidentielle, nous siégeons en tant qu'opposition à la région. Moi, j'en fais partie, je suis conseillère régionale. Et elle n'a cessé de baisser les budgets que la région allouait aux constructions de logements sociaux. Elle refuse de travailler avec l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui est gérée par Olivier Klein, qui lui-même le dénonce. Donc, moi, je veux bien ces grandes phrases, mais ces grandes phrases cachent une réalité, c'est que, oui, l'État est là, l'État fait en sorte que nous soyons au rendez-vous législatif, c'est-à-dire de respecter la loi sur le logement social, mais les grandes phrases ne servent jamais à rien. L'action, oui, elle est là, et elle est là, menée par Emmanuel Wargon, la ministre en charge.
Prisca Thévenot, parlons de la santé en Seine-Saint-Denis, département que vous connaissez bien. Il est très compliqué de trouver un médecin généraliste. Beaucoup ne peuvent pas prendre de nouveaux patients. Pour les spécialistes, c'est encore plus compliqué. Alors, des mesures ont été prises avec la fin du numerus clausus dans les études de médecine, mais que peut-on faire dans l'urgence? Est-ce qu'il faut recruter, par exemple, davantage de médecins étrangers?
Alors, il faut pour recruter, il faut former. Donc déjà, regardons ce qu'on peut faire, nous, sur notre territoire. Il faut bien évidemment former, c'est la raison pour laquelle nous avons enlevé le numerus clausus, ça c'est la majorité présidentielle actuelle qui l'a fait. Nous avons aussi augmenté les places en instituts de formation, rien que sur l'année dernière, c'est 6 000 places en plus dans les instituts de recrutement infirmiers et aides-soignants, c'est pas anodin. Mais oui, il faut aussi des réponses immédiates, parce que ce qu'on est en train de se dire, c'est à horizon 2-3 ans, voire plus, pour les spécialisations. Et donc, il faut continuer à aussi avoir des façons de voir notre médecine pour les actes qui le permettent, attention, pour les actes qui le permettent, un peu innovantes, en lien avec ce qu'on a pu voir, notamment dans le cadre de la crise sanitaire, avec de la télémédecine, mais également permettre, par exemple, à nos soignants, nos aides-soignants, nos infirmiers, de pouvoir faire des actes du quotidien médicaux qu'elles ne sont pas aujourd'hui habilitées à faire et pourtant qu'elles pourraient tout à fait faire. Par exemple, de la prescription d'ordonnance, etc. Je vais pas donner des exemples précis parce que tout ça est très encadré, mais ça fait partie, par exemple, des sujets abordés par le président de la République lorsqu'il était en déplacement dans la Creuse il y a 2-3 semaines de mémoire. Donc, encore une fois, je pense que sur ces sujets-là, il ne doit pas avoir de dogmatisme, mais bien du pragmatisme au service des Français. Donc, avoir des réponses immédiates, comme vous venez de le dire, et des réponses de moyen long terme. Tout doit être mené de concert avec cette priorité qui est l'accès aux soins pour les Français. Sur l'accès aux soins pour les Français, une dernière phrase, vous me le permettez. N'oublions pas qu'on a mis en place le 100% santé. Le 100% santé, c'est 10 millions de Français qui, grâce à cela, ont eu accès, avec la prise en charge totale, de dispositifs dentaires, dispositifs auditifs et des lunettes. Ça, c'est du concret aussi. Ça fait partie aussi des soins du quotidien.
Prisca Thévenot, le gouvernement a mis en place le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire. Il y a eu aussi la mise en place des devoirs faits au collège. Quelle doit être la prochaine étape à l'école? Est-ce qu'il faut, par exemple, prendre des mesures plus volontaristes pour favoriser la mixité sociale?
Alors, il y a effectivement, merci de rappeler, effectivement, il y a eu le dédoublement des classes, il y a le dispositif devoirs faits, il y a aussi un dispositif très important qui est le petit déjeuner gratuit à l'école, parce que rappelons-le que une des premières inégalités qui touche les enfants le matin, c'est que certains arrivent le ventre vide. Certains arrivent le ventre vide parce que les parents n'ont pas, c'est parce que c'est un choix de dire bah on gagne 20 minutes de plus de dodo par rapport à un petit déj, mais il y a aussi des familles dans lesquelles il n'est pas possible de manger pour des raisons économiques. Et on sait très bien qu'un enfant qui arrive le ventre vide à l'école, c'est des difficultés et des inégalités d'apprentissage tout au long de la journée et donc tout au long de sa scolarité. Donc ça mis à part, je pense qu'il faut qu'on continue effectivement à travailler sur le sujet de l'éducation. Je pense qu'un des sujets, c'est par exemple de remettre plus l'accent sur les matières scientifiques. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'à l'heure où nous sommes de plus en plus bercés, et encore une fois ce n'est pas quelque chose de positif ce que je dis, mais bercés par des théories complotistes qui remettent en permanence tout, nous devons rappeler que la science est là pour venir mettre du rationnel dans tout ça. Et on a toujours eu tendance à croire jusqu'à présent que la science était l'affaire des meilleurs de classe, des élites. Non, je ne pense pas. La science est l'affaire de tous. Et nous devons être une nation scientifique. Pour être une nation puissante, nous devons être une nation scientifique. Et donc, il faut qu'on réintègre tout cela dès le plus jeune âge. Alors, il y a plein de façons de le faire de façon très ludique, très agréable. Ça, je laisserai les experts en parler plus que moi. Mais voilà ce genre de choses sur lesquelles on doit travailler encore dans l'éducation. Sur le sujet de la mixité sociale, là, ça en revient aussi, finalement, parce que vous savez qu'il y a les cartes scolaires, au sujet du logement et au sujet de l'habitat dans les quartiers. Donc, quelque part, et merci de le dire, tout cela est étroitement lié, mais oui, nous devons continuer à travailler sur cela, et nous devons continuer à rappeler que l'école républicaine qui est la nôtre est une chance, et pour qu'elle reste une chance, il faut qu'on puisse, de façon très logique, pouvoir dire que sur certains aspects, elle doit pouvoir évoluer. Et c'est l'objet de la mission que s'est fixée Jean-Michel Blanquer depuis maintenant 5 ans, de refaire de l'école une école qui donne les moyens et les chances à toutes et à tous, avec justement la réforme de l'école de la confiance.
Prisca Thévenot, vous avez mis en avant les bons résultats de la majorité présidentielle sur l'emploi et l'économie. Certes, 1 million d'emplois ont été créés, mais parfois ce sont des auto-entrepreneurs, des travailleurs ubérisés. Est-ce que l'un des chantiers d'Emmanuel Macron, s'il est réélu, ce sera de protéger davantage ces travailleurs qui ont peu de droits sociaux? Je pense aussi aux personnes qui subissent un temps partiel imposé et qui donc ont de très faibles rémunérations.
Il n'est pas complètement juste de dire que sur la majorité des emplois qui ont été créés, donc c'est plus d'1 200 000 emplois qui ont été créés depuis le début du quinquennat, ce sont des emplois précaires. Puisque c'est la majorité des emplois qui ont été créés rien que l'année dernière, ce sont aussi beaucoup des emplois liés à l'industrie. Pourquoi? Parce que nous avons eu plus de 600, je crois, projets de relocalisation industrielle qui ont eu lieu sur le territoire. Donc ce sont des emplois industriels, donc des emplois absolument pas précaire. Mais cela n'enlève pas effectivement le sujet que vous soulignez tout justement, de lutter contre la précarisation des travailleurs. Parce que nous avons effectivement en France des personnes qui travaillent et pour autant qui sont précaires du fait du statut, du fait de leur emploi eux-mêmes. Et donc oui, nous devons travailler sur cela. Et ça a été notamment l'objet du discours qui a été fait par Jean Castex en fin d'année dernière, si je me rappelle bien, c'est en octobre-novembre, sur justement le fait que nous devons continuer à travailler sur la précarisation d'un certain nombre de Français qui travaillent aujourd'hui, mais également, et là c'est aussi lié, sur les chômeurs de longue durée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un chômeur sur deux est un chômeur de longue durée. Donc tout cela, il faut y travailler. Il faut y travailler sans le nier, sans le cacher sous le tapis. Et ça a été l'objet du discours de Jean Castex, comme je le disais, en octobre-novembre de l'année dernière. Mais également, ça fait partie du grand projet France 2030 du président de la République qu'il a présenté également en fin d'année dernière pour aussi préparer les générations à venir, mais aussi les générations actuelles, à pouvoir s'orienter vers des métiers de demain, des métiers qui sont moins compliqué du terme de précarisation et puis surtout moins pénible.
Prisca Thévenot, les militants de votre parti étaient sur le terrain ce week-end pour convaincre les Français de voter pour Emmanuel Macron. Comment vous préparez-vous à cette élection alors que le président n'a pas encore annoncé sa candidature et qu'on ignore tout de son programme ?
Eh bien, moi, j'y étais ce week-end, par exemple, comme tous les week-ends. Et en fait, je vais être très claire avec vous. On a la responsabilité déjà de porter un bilan. Et ça, vous voyez, tout le début, et je vous en remercie, de notre échange porte sur cela. Avant de pouvoir tracer des lignes, il faut déjà regarder ce que nous avons fait dans le rétroviseur et le regarder avec la plus grande objectivité possible. Et c'est ce que nous faisons. Ensuite, pour être très clair, depuis le mois de septembre, la majorité présidentielle, et quand je dis ça, ce sont les militants, mais également les engagés, les élus de la majorité présidentielle, nous sommes aussi en train de travailler l'après, justement. Il y a eu plus de 250 ateliers qui ont été mis en place dans toute la France. Il y a eu plus de 25 000 questionnaires qui ont été remplis par des Français que nous avons contactés et que nous avons abordés lors d'opérations terrain sur qu'avez-vous pensé du quinquennat, mais aussi qu'attendez-vous pour la suite. Et donc, tout ça fait l'objet aujourd'hui de grands groupes de travail. Nous sommes en train d'analyser ces retours. Nous avons fait un premier colloque sur la base de ces restitutions il y a maintenant 2 semaines. Ont été présents l'ensemble des représentants de la majorité présidentielle, Stanislas Guérini, François Bayrou, Édouard Philippe, Franck Riester, etc. Et nous travaillons. Donc en fait, pour être très clair, nous sommes en campagne. Nous espérons très fortement que le président de la République se déclarera et qu'il se déclarera rapidement. Mais cela ne nous empêche pas de travailler et de continuer à travailler. Et ça, quelque part, quand on est sur le terrain, j'ai que très rarement entendu quand le président va-t-il se déclarer. C'est pas une question qui revient.
Merci Prisca Thévenot. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France et porte-parole de La République En Marche. Bonsoir.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.